face à Le Chypre, il y a ce matin Jean-Marc Daniel et on va parler de ce grand oral de 3 heures pour les candidats à la place d'Antonio Guterres à la tête de l'ONU. Ce qui nous fait nous poser cette question ce matin, quel avenir pour l'institution? Est-ce que ça sert encore à quelque chose l'ONU, Emmanuel Le Chypre?
C'est même pire que ça, c'est que ça n'a jamais servi à rien.
Carrément.
Mais non, ça n'a jamais servi à rien. Alors il y a eu effectivement une espèce d'illusion après la Deuxième Guerre mondiale où on vivait dans un monde relativement pacifié, mais en fait on s'aperçoit que ça n'était pas à cause de l'ONU, c'est parce que vous aviez un ordre mondial qui était l'ordre de la guerre froide dans lequel finalement chacune des deux grandes puissances arrivait finalement à maintenir sous le boisseau tous les pays dont chaque zone était dépendante. La réalité, c'est que depuis que la guerre froide est terminée, depuis que le mur de Berlin est tombé, on a vu se multiplier les conflits, la guerre en Irak, l'Afghanistan, l'Ukraine, la Syrie. Vous avez aujourd'hui à peu près 130 conflits dans le monde, c'est deux fois plus qu'il y a 15 ans. Et l'ONU a été totalement incapable d'empêcher ça. Alors le cœur du problème, c'est quand même ce Conseil de sécurité, avec, je rappelle, un 5 pays qui ont le droit de veto, États-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni. Et résultat, dès qu'un conflit touche aux intérêts d'un de ces pays, eh bien aucun consensus n'est possible. L'ONU est tout simplement spectatrice. Alors en plus, l'ONU n'a pas de pouvoir coercitif, donc on voit bien les opérations de maintien de la paix, c'est à peu près, tout ça se fait tant bien que mal, mais sans influencer véritablement le cours de ces conflits. Il faut rappeler qu'au Rwanda, en 1994, pendant le génocide, l'ONU était là et l'ONU n'a rien pu faire. Donc, à quoi peut servir cette institution dans un monde qui, en plus, est encore moins multilatéral, encore plus conflictuel et encore plus un monde de confrontation que le monde des années 90? J'avoue que je suis assez sceptique.
Et pourtant, Jean-Marc Daniel a la réponse.
Ah oui, je pense que le réquisitoire que vient de développer Emmanuel me fait penser à une formule qu'il y a dans un film qui s'appelle Les Tontons Flingueurs. À un moment donné, il y en a qui rafale une équipe rivale et on lui dit mais pourquoi vous avez fait ça? Et il dit, je ne dis pas que ce n'est pas injuste, je reconnais que c'est injuste, mais ça soulage. Effectivement, dire du mal de l'ONU, je pense que c'est assez injuste et ça soulage. Vous avez une formule assez célèbre de Henry Kissinger dans les années 70 qui faisait aussi le procès de l'ONU et qui dit, écoutez, l'ONU, qu'est-ce que c'est? C'est une organisation qui a été créée par les États-Unis, qui est installée sur le territoire des États-Unis, qui est financée par les États-Unis et qui ne sert qu'à une chose, dire du mal des États-Unis. Alors, c'est assez vrai, tout ça. Mais fondamentalement, je ferai 3 constats. Le premier, c'est que ça coûte pas très cher. L'ONU, ça coûte 3 milliards. L'ONU en tant que telle, puisque je reviendrai sur le système, ça coûte 3 milliards. C'est 33 000 personnes, 33 000 personnes. Je rappelle que la ville de Paris, c'est...
Oui.
55 000 personnes, qui est l'étalon que l'on met assez souvent en avant. Vous savez, Jacques Chirac disait la ville de Paris par rapport à Bruxelles, finalement, on est dans le même ordre de grandeur. Non, l'ONU, c'est moins que la ville de Paris, c'est 3 milliards, et donc ça coûte pas très cher. Le deuxième remarque que je ferai, c'est que ça permet à un certain nombre de pays d'exprimer leur point de vue diplomatique. Il y a une sorte de moment warholien de la diplomatie mondiale, c'est-à-dire que chaque pays peut s'exprimer, mais faire valoir son point de vue, être en contact justement avec ses membres permanents du Conseil de sécurité. Il y a une espèce de lieu où tout le monde se retrouve. Et alors, c'est une idée qui est une idée ancienne. Déjà au Moyen-Âge, il y avait des auteurs comme Dante ou Marcille de Padoue qui disaient qu'il faut qu'il y ait quelque part un défenseur pacis. C'est-à-dire quelqu'un qui défend la paix, un lieu, une façon, une organisation qui défend la paix. Et donc, il disait, c'est ce qu'avaient fait les Romains en soumettant tout le monde. Mais le défenseur pacis, c'est aussi celui qui va organiser les échanges de points de vue. Donc, l'ONU n'arrive pas forcément à défendre la paix, c'est incontestable, mais l'ONU est quand même un lieu, un endroit où les gens se parlent et où on donne une forme de crédibilité à des pays. Il y a une petite dimension sur le plan diplomatique. Et le troisième élément, c'est que l'ONU, c'est la tête d'un ensemble d'organisations qui sont des organisations dont le rôle est assez utile. Alors, il y en a qui sont plus ou moins contestables. Il y a les débats permanents autour de l'UNESCO. Est-ce que l'UNESCO n'est pas le porte-parole d'une vision systématiquement anti-occidentale sur le plan culturel, mais le FMI et la Banque mondiale, je rappelle, sont des organisations qui dépendent de l'ONU. Ce sont les héritiers de ce qu'on avait constaté au travers de la Société des Nations, le Comité financier, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce sont des organismes qui jouent un rôle déterminant dans le fonctionnement de l'économie mondiale. Donc je dis, l'ONU, entre le moment warholien des petits pays et l'apport qui est apporté par le FMI, la Banque mondiale, l'UNICEF, le Programme des Nations Unies sur l'environnement, au fonctionnement de la vie de notre monde, c'est un organisme qui mérite d'être défendu, même si, encore une fois, ça soulage de taper sur l'ONU.
Non mais,
Emmanuel.
Oui, mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on attend de ce genre d'organisation? Alors, je concède un point à Jean-Marc. C'est vrai que sur les sujets qui sont des sujets finalement un peu techniques, effectivement, l'ONU a un rôle. Moi, je pense à une organisation que Jean-Marc a pas citée, qui est l'Organisation mondiale de la santé. Bah, là, effectivement, on peut se dire que ça fait avancer. Mais enfin, c'est quand même une maigre consolation par rapport à ce qu'on serait en droit d'attendre finalement de ce forum où devrait se faire une sorte de consensus. Or, en réalité, ça n'est malheureusement absolument pas le cas, comme ça n'était pas le cas d'ailleurs au moment de la Société des Nations. Donc, ce genre de grandes organisations qui sont censées finalement accueillir toutes les bonnes volontés, mais où on voit bien que dès qu'il y a des enjeux, les intérêts nationaux l'emportent et qu'il n'y a aucun moyen finalement de faire fléchir ces intérêts nationaux. Bon, ben voilà, l'ONU, elle est là. Effectivement, Jean-Marc a dit, ça coûte pas cher.
Vas-y, mais si ça sert à rien, ça coûte trop cher.
On aimerait tellement qu'elle puisse faire plus que forcément, on est quand même déçu de sa contribution.
Jean-Marc, pour finir.
Oui, pour finir, je maintiens cette idée qu'un certain nombre de petits pays peuvent exister par l'intermédiaire de l'ONU est fondamentale. Là aussi, je ferai une citation qui est une citation qui peut paraître un peu grotesque, mais quand à la tête de l'Ouganda, il y avait le général Idi Amin Dada, il avait nommé comme ministre des Affaires étrangères Miss Ouganda, et on lui avait demandé pourquoi, il avait dit parce que tous les ans à l'ONU, personne ne nous écoute, mais tout le monde nous regarde. Et donc, il y avait une façon, effectivement, de faire exister par l'intermédiaire de l'ONU des pays qui sont des pays qu'on a plutôt tendance à considérer comme des seconds couteaux de la diplomatie et de l'activité économique mondiale.
Merci beaucoup, messieurs, et entretien, donc, de 3 heures, hein, de ces 4 prétendant à la tête de l'ONU aujourd'hui.
Enfin, une femme, peut-être.
Et oui, il y en a 2 hein, dans la liste, effectivement.
Ouais. Celle qui vient du Costa Rica a un très bon profil.
Voilà, on verra bien ce que ça donne, on le saura l'été prochain. Merci beaucoup, messieurs.